Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi.
Et ce n'est pas la première fois.
Les grandes gueules du sport.
Bonne défense. Non, ils font du bon travail.
Georges Quilino.
C'est vrai, il est unique.
Ah là, mais tu me transportais quand t'étais commentateur dans les jeux vidéo, Denis. T'étais vraiment.
T'étais aussi mauvais dans les jeux que dans la réalité. Ah ouais.
Je vais rien dire là, je suis assez gentil.
Mais t'en penses pas moins, c'est ça?
Non, mais non, mon Denis, tu sais pas.
Je sais qu'il aime, donc j'ai pas de problème avec ça. Il aime bien, châtie bien, on le sait. Donc,
et comme il me fracasse, et dès qu'il peut me balancer.
Non, mais je pleure, c'est quoi? On me frotte au chaud, je pleure quand il passe la séquence, Christophe. Ah non, mais là, c'est. Il y a pas un mot qui sort.
Ah, t'es en train de. Et tu sais que tu parles, normalement là, je crois. On est avec Denis Charvet, je crois Christophe Cessieux, du coup. Marc Maggio, qui comprend pas ce qui est en train de se passer.
Non, mais il rigole,
et Sarah Butkowski, qui a pris des cours d'élocution pendant toute la semaine, je le sais. Un peu marqué par la semaine dernière.
Et qui dit.
Je me suis entraînée que sur Florent Ivanisevic.
Mais non, c'est Ivanisevic.
Vous n'êtes pas gentil.
Mais c'est pas possible. C'est incroyable. Elle a bossé toute la semaine, elle s'est encore gourée.
Alors, le genre de football.
Non, j'y vais
de Liverpool,
plus.
Vas-y, allez,
non,
une fois.
Non. Hugo.
Allez, pour le journal
Hugo,
moyen.
Hugo, ça, je sais dire.
Ah. Allez.
Et Goran
Ivanisevic.
Voilà. Allez, Marseillaise.
Hugo est tiqué. Non, je ne veux pas. Et puis c'est Denis qui me le dit.
La Coupe du Monde, c'est dans deux mois. Hein. Il va falloir.
Au fait, Denis, tu connais le nom de l'ouvreur des Stormers cet après-midi?
Non.
Qui vient jouer?
Vas-y.
Mais si, Sacha Feinberg.
Ah oui, Feinberg.
M. Gomezoulou. M. Gomezoulou.
M. Gomezoulou.
Facile. Qu'est-ce que vous croyez? Non, mais attendez,
Sacha Feinberg.
Sous-estimez pas, Denis. Dans un instant, on va parler rugby, justement, en punchline. Parce qu'on a un promoteur de boxe mondialement connu qui veut faire d'un troisième ligne anglais, Henry Pollock, une superstar. Est-ce que le rugby a besoin de ça? Vous pouvez retrouver la première heure des grandes gueules du sport en podcast. On a longuement parlé du foot. Hein. Est-ce que ça vous passionne toujours autant? Vous étiez très nombreux avec nous au 32-16 et sur WhatsApp. Et d'ailleurs, vous continuez à nous appeler. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG, remportez un séjour d'une valeur de 550€ dans un des 400 campings Homer, des campings 4 et 5 étoiles situés en France, hein, au Sable d'Olonne, au Canet en Roussillon, dans plein de destinations. Voyagez selon vos envies de 2 nuits à 1 semaine jusqu'à 6 personnes sur l'année à venir pour remporter votre séjour Homer. Appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 7-3216 sport au 7-32-16. Mais d'abord sur le ring, parce que là ça va vraiment être un ring peut-être. J-1 avant le Tour des Flandres. Montez le volume à fond. Ce n'est plus le vélo de Guylain Lambert. Ah ça non, c'est du cyclisme heavy metal.
RMC, le ring des GG.
Vingegaard attaque. Alors là, effectivement, c'est la bataille. Ça va être très très chaud.
Chute de Tadej Pogacar qui se prend la barrière. Oh là là, il va se relever vite.
Mathieu Van Der Poel, le petit fils de Raymond Poulidor qui va peut-être s'imposer après. Oh là là, il a fait un trou énorme, Mathieu Van Der Poel.
Oh, il va
personne ne peut résister à la puissance du Néerlandais, il est énorme.
Il est ému, Paul Sextas. Il est ému au moment de franchir cette ligne d'arrivée. Podium pour Paul Sextas.
Vingegaard qui s'envole. Et désormais dans la montée, est-ce que Pogacar va pouvoir réagir? Non, ils ne réagissent pas. Il ne réagit pas, Tadej Pogacar, il laisse Vingegaard s'envoler.
Chute, Tadej Pogacar, bien amoché, on l'a vu se relever, il est reparti le Slovène, mais ça va être très très difficile.
Mathieu Van Der Poel qui va carrément descendre de son vélo sur la ligne d'arrivée. L'image est saisissante pour l'histoire. Fabuleux Mathieu Van Der Poel.
Tom Pidcock dans la route, Tadej Pogacar, est-ce qu'il va réussir? Il passe, Tom Pidcock le Britannique. Non. Victoire de Tadej Pogacar. Victoire de Tadej Pogacar au sprint.
C'est ça le vélo aujourd'hui.
Rock and roll.
Il n'y a plus de temps mort. C'est ça, c'est rien. Et même les commentateurs ont plus de souffle.
Alors on a un bon
comment il se passe de choses.
On a des bons commentateurs là.
Ah oui.
Très bon main.
Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu m'interpelles là.
Oui, j'adore, moi, Christophe.
Bien sûr.
Maria,
évidemment. Demain, donc, on aura des monts.
On se régale.
Des monts, des pavés, peut-être de la pluie et un casting 5 étoiles avec des coureurs qui aiment dynamiter tous les scénarios envisagés par les suiveurs. C'est le cyclisme d'aujourd'hui. C'est la 110e édition du Tour des Flandres que vous allez suivre, évidemment, sur RMC demain avec les 4 fantastiques Pogacar, Van Der Poel, Van Aert et Evenepoel. Ce dernier a annoncé sa participation à l'épreuve cette semaine, en plus, à l'américaine. Un truc nouveau. Dans une vidéo, après avoir menti sur le fait qu'il ne serait pas là, Remco a dit « Attention les cocos,
il va aussi falloir compter sur moi. Communication assez inédite dans le cyclisme, je le disais.
Red Bull,
de quoi ? Ah ouais, exactement, t'as raison. C'est aussi des nouvelles entreprises qui arrivent avec leurs moyens de communication dans le vélo. De quoi élever encore un peu plus peut-être le niveau de nervosité. Plus aucune course, je le disais, aucun kilomètre de tout repos dans le cyclisme moderne. Les GG, je vous pose la question. Parce que là, on s'emballe. Mais est-ce que le cyclisme est devenu trop rock'n'roll ? Est-ce que ça va pas trop loin aussi ? Ça va pas trop vite ? Trop d'attaques ? Vous dites oui, Sarah Pitkowski, à 22%, mais avec une nuance. 22%, c'est le vote du public. Non, Marc, Denis, Christophe, 78% sur le compte X des grandes gueules du sport. Donc largement, vous dites non. En fait, je pense que vous kiffez ça, tout simplement. Et on va tous être d'accord pour dire que c'est rock'n'roll. C'est pour ça qu'on a voulu être un peu plus dans la nuance et dire est-ce que c'est pas trop rock'n'roll. On a une envoyée spéciale, ok, une âme de rockeuse, elle aussi. Oh. C'est Maria Azé qui est dans les Flandres pour RMC. Salut Maria.
Salut Maria.
Ah, mais là, attention, maintenant, pour commenter du vélo, il va falloir mettre, tu sais, comme ça, les cheveux noirs et tout. Voilà, c'est du heavy metal. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va.
Le cuir noir.
Maria, la participation surprise de Remco, je le disais, elle a fait monter la température qui était déjà élevée avant cette course. Hein.
Ouais, on sent déjà énormément de tension hein, dans toutes les courses depuis le début de saison. Mais là, autant vous dire qu'avec Pogacar, Van Der Poel, Van Aert et désormais Remco Evenepoel invité de dernière minute, tu le disais Georges, la guerre pour le placement va être d'autant plus importante. Et cette nervosité justement, ça plaît au double champion olympique.
Pour moi, le meilleur, c'est que ça soit hyper stressant. Comme ça, je suis souvent bien à ma place. Mais en général, je pense que j'ai pris beaucoup d'expérience pour me positionner. J'ai aussi appris beaucoup de mes coéquipiers pour le frottage. Et c'est pour ça que je me suis lancé un peu dans les sprints aussi la semaine passée autour de Catalogne. Donc, normalement, ça devrait aller si tout se passe bien.
Alors ça, c'est le discours d'un leader. Mais lorsqu'on est coéquipier, les pelotons de plus en plus tendus, c'est pas forcément une partie de plaisir. Notamment pour Florian Sénéchal, le coéquipier de Mathieu Van Der Poel.
Une nouvelle génération de coureurs qui sont limite. On va déjà de plus en plus vite. Si tu laisses un petit espace, il y a quelqu'un qui va te faire à l'intérieur. Ça va freiner au dernier moment. Il n'y a plus de distance de sécurité comme on faisait avant. C'est pour ça qu'il y a plus de chutes, en fait. Avant, on passait deux de front dans un virage maximum. Des fois, on se retrouve à quatre de front et ça pile. Voilà, c'est juste des coureurs qui sont sans limite. Je rappelle que je pouvais pas faire à l'intérieur, hein, Tom Boden à Cancellara.
Et à entendre les coureurs, on sent déjà le stress avant la course. Le leader de la Groupama FDJ United s'attend à une énorme bataille, Romain Grégoire.
Je m'attends à une course de folie, surtout qu'ils annoncent du vent à 280 km et pour avoir fait la reco, l'enchaînement du Tour des Flandres, c'est quand même assez fou. Avec des coureurs qui n'ont pas peur de lancer de loin, qui ont même envie sûrement de lancer de loin, ça peut être une course folle. Moi, je pense qu'il faut être prêt pour une grosse bagarre, il faut être prêt à avoir mal.
Voilà, 278 km de course, 18 difficultés répertoriées entre les monts et les secteurs pavés dans une course aussi imprévisible que le Tour des Flandres. Personne n'est à l'abri d'un souci mécanique ou d'une chute, donc on devrait avoir du beau spectacle demain.
Évidemment, merci Maria, on vivra ça avec toi et Jérôme Pinault, qui d'accord c'est sur les pavés du Tour des Flandres.
C'est pas la plus longue course, non ?
Non, c'est Milan-San Remo, là.
C'est Milan-San Remo, ouais.
Plus de 300 km.
La plus longue, la plus dure, c'est l'Enfer du Nord.
Paris-Roubaix, la Paris-Roubaix,
c'est Liège-Bastogne.
Marc Madiot, tiens, est-ce que le cyclisme est devenu trop rock'n'roll. On voulait entendre les coureurs aussi, justement, pour ce côté vivre de l'intérieur, ce qu'est le vélo moderne d'aujourd'hui. Ça va très vite, peut-être trop vite. Qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, il n'est pas trop rock'n'roll dans sa façon d'évoluer. Il est trop rock'n'roll par rapport à la sécurité. Je trouve qu'on a des soucis avec le matériel utilisé qui cherche à aller de plus en plus vite sur des routes qui sont de moins en moins adaptées pour aller vite. Donc ça, c'est le sujet sécurité et normalisation d'un matériel qui permettrait de mettre les gens un peu plus en sécurité.
C'est un sujet très important. Hein.
C'est un sujet majeur.
Mais qui avance.
Mais à côté de cela, qui avance peu ou pas du tout. Ouais. Mais à côté de ça, on a quand même une qualité de spectacle et une qualité de course exceptionnelle. Demain, on aura un millésime ou une course d'exception.
Oui, mais c'est un paradoxe ce que tu dis, puisque tu as besoin de ça.
Non, il y a deux aspects. Il y a l'aspect sécurité d'un côté, et puis de l'autre, le moment d'anthologie cycliste qui nous attend demain. Pour moi, c'est un moment d'anthologie qui peut se présenter à nous. Alors, ça peut foirer, mais ça peut aussi être un moment d'exception. Parce qu'on a des coureurs comme on en rencontre peu pendant des dizaines d'années. On a eu peut-être cette époque avec Martens, avec De Vlaeminck, avec Merckx. Merci. Mais là, demain, on a le must du must. On a les coureurs d'exception, on a des coureurs d'anthologie, c'est quatre coureurs d'anthologie qu'on va avoir sur la ligne de départ demain. Ils ont une personnalité, ils ont un talent d'exception. Donc on va réunir ces quatre mecs-là sur un parcours de folie, parce que les Flandres, c'est un truc très particulier, avec les pavés, avec les monts, avec le vent, peut-être avec la pluie, et aussi ne pas l'oublier, cette communion d'exception avec un public extraordinaire. Le meilleur public du monde pour une course cycliste, il n'est pas en France, il est dans les Flandres. Et demain, regardez ce qui se passera sur le bord de la route. Imaginez qu'on est dans le mur, qu'on est dans le vieux Coirmont. Quand on va être dans le vieux Coirmont, c'est Pogacar met une prune et qu'on retrouve les trois autres derrière à 15 secondes. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être l'événement majeur de l'histoire du cyclisme, parce que il y a un élément qu'il va falloir prendre en considération. Est-ce que Van Aert va se déballonner par rapport à Van Der Poel? Est-ce que Van der Poel va oser passer et prendre un relais à ses deux autres collègues?
On va voir.
C'est là. C'est là que va être le match.
Oui,
donc demain, regardez le Tour des Flandres.
Exceptionnel. Comment tu peux passer après lui? Tu vas passer après lui, c'est pas possible. Non,
Mais non, mais je suis déchaîné. Demain, c'est l'exception.
J'ai une question.
Envoyez des coureurs.
J'ai une question. Il nous parle de quatre coureurs d'exception. Moi, je le vois. Je suis de plus en plus attiré par la course. Alors que avant, je regardais le Tour de France, c'est tout. Maintenant, je regarde les classiques.
Donc toi tu trouves du coup que c'est pas trop rock'n'roll, t'adores ça?
Ah non, mais au contraire, le fait d'être trop rock'n'roll marche sur moi, parce que j'y vais maintenant, hein, je trouve ça formidable. Mais il y a un truc qui me dérange pas, mais qui m'interpelle. Il y a quatre coureurs, tu parles de quatre coureurs, ça veut dire qu'il y en a aucun autre qui peut gagner?
Si, il y a un Pedersen ou d'autres, mais là on a quand même... Allez, on a une affiche d'exception. On a une affiche d'exception. Il faut vraiment en prendre conscience et en profiter.
Mais alors, ce qui est intéressant, je trouve, Marc, on va en parler avec les autres grandes gueules derrière, c'est que tu en as vécu énormément des Tours des Flandres. Là, tu invoques une époque dorée légendaire le passé. On est là-dedans aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire toi, même si tu en as vécu beaucoup, tu y as participé, tu as cet enthousiasme aujourd'hui. Comme le grand public, en fait.
Mais oui.
Encore plus, même en étant
profitons de ce moment.
Mais est-ce que même dans le peloton c'est comme ça? Est-ce que même dans le peloton les gars,
je pense que
c'est incroyable ce qu'on vit.
Oui, je pense.
C'est incroyable ce qu'on vit. On a vu Pidcock faire une révérence à Pogacar à la fin de Milan-San Remo. Il y a le sentiment de vivre un âge d'or.
Ouais.
Il y a un âge d'or en plus qui est amplifié sur cette course en particulier, parce que il y a eu Milan-San Remo il y a 15 jours. T'en avais deux au départ. Tout était axé sur ces deux-là. C'était Van der Poel et Pogacar. Ces deux auxquels sont venus se joindre deux autres qui sont aussi parmi les plus grands. Van Aert qui retrouve la grande forme et qui est un coureur extraordinaire que Marc adore. Et puis Evenepoel qui va faire ses débuts sur le Tour
des Flandres. Hein. Et
c'est deux Flamands. Et ils sont deux Flamands. Donc t'imagines la ferveur qui va s'emparer.
Toi, ce cyclisme-là, tu l'attendais, Christophe.
Moi,
ça fait des années.
J'en rêve depuis des siècles. J'adore le vélo depuis que je suis tout petit, mais pendant des années quand même. Ça avait quand même une image un peu ringarde, le vélo, avec ces mecs mal gaulés, mal fagotés.
Aujourd'hui t'as tous les ingrédients.
Des courses qui ressemblaient à rien. Je me rappelle du début du Tour de France. Tu savais que pendant une semaine t'allais
faire
des étapes de sprint. Tu vois, tout était fait. C'était à l'ancienne. Et aujourd'hui on a des révolutionnaires, on a des rockers, des mecs qui veulent dynamiser ce sport. On a des athlètes aussi qui sont des super beaux mecs. Quand tu vois Van der Poel qui descend de son vélo,
c'est une rockstar. Van der Poel, il voyage en jet privé, c'est une star.
Tu dis quoi?
Van der Poel, c'est un jeune premier. Pogacar, c'est l'empereur.
Et Marc Wout. Wout Van Aert.
Et le beau-père de famille flamand.
Oui, mais est-ce que demain il va avoir les couronnes?
Mais bien sûr, évidemment. Moi, mon truc, c'est je veux les voir, je veux qu'ils se regardent dans le blanc des yeux. À un moment, ils vont se regarder.
Voilà.
Est-ce que moi, Wout, je me déballonne face à Remco?
Et qu'est-ce que t'en penses, Polo?
Est-ce que je me déballonne par rapport à Mathieu?
Est-ce qu'il va, il est obligé de...
Vous savez que je suis presque convaincu qu'ils ne vont pas oser. Mais t'imagines, tu es Remco ou tu es Wout et tu te déballonnes chez toi en Flandre face à Mathieu.
Tu ne peux plus passer la frontière.
Vous savez ce qui est le meilleur dans le Marc Madiot, c'est la gestion des silences. C'est même pas tellement les moments où ça s'envole, c'est les...
Il
te prend, hein, tu l'attends, quoi. Sarah, le cyclisme est-il devenu trop rock'n'roll? Alors toi tu as dit oui, mais je pensais un peu dans ce que dit Marc.
Et alors, c'est exactement, je suis dans la lignée de Denis, c'est-à-dire que je suis le vélo, mais de manière générale. Mais là, effectivement, je ne sais pas pourquoi, ce storytelling qui est en train de se créer autour de ces coureurs, parce qu'il y a quand même, il y a quand même quelque chose qui est assez invraisemblable, c'est-à-dire qu'il y a un super storytelling, mais on sait toujours celui qui va gagner à la fin.
Peut-être pas demain.
C'est ça.
Peut-être pas demain.
Mais c'est ce qu'on. C'est... Alors, pardon.
On va en parler. On va en parler demain.
C'est ce que vous nous vendez sur chaque course.
On va en parler demain.
Ça sert hein sur Milan-San Remo. Il lui a fallu quand même un paquet d'années
pour réussir. Oui.
Et la semaine prochaine. Et l'année prochaine. La semaine prochaine, il y a le Paris-Roubaix.
Exactement.
La seule course qu'il n'a jamais gagnée. Et là aussi, on va te refaire le même numéro.
Mais 90% des courses, on sait.
Je suis là samedi.
90% des courses, on sait qui passe la ligne d'arrivée. Mais pour autant. Pour autant, effectivement, ces coureurs, ce qu'on est en train de raconter autour d'eux, les enjeux qu'on nous donne avant la course, en tout cas, moi, ils vont jusqu'à moi. C'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à moi, véritablement. Donc, je regarde généralement pas les classiques, mais je suis comme Denis. C'est-à-dire que je vais être demain devant mon téléphone ou je vais tendre l'oreille pour savoir ce qui va se passer sur les derniers kilomètres.
En fait, parce que ce sont de vrais champions. On le ressent. Ils incarnent vraiment quelque chose. Donc,
oui. comme disait Christophe, avant le cycliste, avait l'impression que tout était joué, tout était sclérosé. C'est-à-dire qu'il pouvait pas.
Mais là, par exemple, ce qu'a fait Remco d'annoncer cette semaine,
c'est génial.
Salut les gars.
Mais c'est génial.
Ben c'est ce qu'avait fait Poggi l'année dernière sur Paris Roubaix. Il devait pas le faire et puis d'un seul coup, ah bah tiens, je vais faire Paris Roubaix. Ça avait mis une ampleur incroyable cette course la saison dernière.
On veut vous entendre vous aussi au 32-16 à Arnaud. Arnaud nous appelle de Montbard en Côte d'Or. Salut Arnaud.
Salut les GG. Bon. Honoré de vous avoir au téléphone.
Bah c'est nous. Alors tu l'aimes ce cyclisme rock'n'roll?
Eh ben je suis pas. Alors j'ai toujours regardé le cyclisme depuis près de 40 ans maintenant. Mais j'avoue que là je reviens dans des années cyclisme qui me plaisent. On était tombé un petit peu, je trouve, dans un truc qui devenait un peu moins intéressant, c'est vrai. Et puis ben là, par contre, c'est vrai que ça redonne envie de regarder. Là, on veut voir ce qui va se passer. Là, on écoute Marc. On a envie d'être à demain. Moi, je signe tout de suite pour que demain ça parte en sucette sur la route. C'est cool. C'est vrai que c'est rock'n'roll, mais ça donne envie d'y revenir. Alors qu'on n'avait plus trop envie de. C'était déjà effectivement, comme dit votre collègue, c'est tout était déjà écrit en fait. On savait déjà qui allait gagner à la fin, et c'était pas très drôle.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que là,
Et les meilleurs s'éviter. Et les meilleurs s'éviter avant les grands tours. Ah. Là, en l'occurrence.
Alors, ils continuent de s'éviter sur les courses par étapes pour l'instant. Hein,
mais par exemple, là, le fait qu'ils soient tous les quatre, il n'y a pas qu'eux aussi non plus dans cette course, mais ça donne un truc qui est juste incroyable. Donc, effectivement, ça rend encore plus attractif. Ces fameuses cinq monuments, ces fameuses Flandriennes qu'on nous raconte chaque année.
Ce qui est génial, Sarah, c'est que entre le Tour des Flandres, la Guerre des Étoiles de demain, le Paris-Roubaix de la semaine d'après qui va être énorme, c'est la dernière course que Pogacar va devoir gagner, on va assister peut-être au sacre de l'élu. Et oui, Paul Sexa sera sur les routes du Tour du Pays Basque.
On va en parler tout à l'heure.
Opposé à Ayuso, opposé à Roglic, opposé à Del Toro. Là aussi, ça va être énorme.
Là, c'est la jeune garde.
Complètement fou. Marc, je te dis, t'as une très mauvaise influence sur Christophe derrière. Il a envie de faire exactement comme toi.
Mais oui, c'est mon maître. C'est mon maître depuis toujours.
Juste, je voulais citer Peter Sagan, triple champion du monde, vainqueur du Tour des Flandres en 2016, qui a été un des premiers rockers peut-être de cette nouvelle génération. Oui. On lui a posé la question, est-ce que vous vous sentez le père de cette génération, de ce cyclisme qui a beaucoup changé? Il a dit, si je roulais aujourd'hui, je ne gagnerais aucune course. Peut-être avec un peu de chance au sprint, je suis sérieux, le niveau est fou aujourd'hui. Ils vont à fond du début à la fin, aucun repos. Les échappés n'ont jamais plus de 5 minutes d'avance. Le niveau moyen est beaucoup plus haut qu'avant.
Oui, il avait les qualités pour s'adapter au cyclisme d'aujourd'hui, bien sûr.
C'est le père de cette génération. C'est le père de cette génération.
Parce qu'après, il faut être conscient aussi, il faut quand même que je le dise également, parce qu'on l'a eu après Milan-San Remo, aller trop loin, avoir des courses trop folle, ça amène aussi, de par l'histoire du vélo, des doutes de certaines personnes dans le public, certains spectateurs. Ça me semble important de le signaler, et parce que c'est aussi souvent les messages que l'on a sur WhatsApp après les courses. Rapidement, parce qu'on va en parler demain, Marc, tu seras pas avec nous. Demain, on va faire le débat. Préparez-vous déjà au 32-16, préparez-vous à venir. Croyez-vous à la guerre des étoiles sur le Tour des Flandres? Juste très rapidement, t'y crois, toi?
Oui.
Tu penses que Pogacar peut être mis en difficulté, vraiment?
Il peut être mis en difficulté si les trois autres ne se déballonnent pas.
Voilà qui est un magnifique teasing. Je vais te prendre pour tous les teasings, Marc. Je pense que c'est comme ça. Allez, les amis.
Il sait être bref en plus.
Le résultat Ouais, ça dépend. Parce qu'après, quand il est parti, après, tu ne peux plus l'arrêter. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Le résultat du débat, vous êtes 79% à penser que non, le cyclisme n'est pas devenu trop rock'n'roll. Et en fait, vous l'embrassez, je pense, ce cyclisme moderne et ce qui nous attend demain. Merci Maria Azé qui nous fera vivre cette course avec Jérôme Pinault, évidemment, sur RMC. On en reparlera demain. Dans un instant, on parle rugby. Est-ce que le rugby a besoin d'une superstar? Parce qu'il y a un promoteur de boxe qui veut en créer une. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Dans un instant, le j'y crois pas, on va parler F1, on va parler de Paul Sexas qui enflamme déjà Christophe Cessieux. Il sort au départ du Tour du Pays Basque. Paul Sexas, pas Christophe. Oh, il aimerait bien. À partir de lundi, évidemment. Mais d'abord, la punchline de la semaine, elle est en rugby, signée du promoteur de boxe mondialement connu, Eddie Hearn, celui qui a notamment construit la carrière d'Anthony Joshua. Hein. On a eu, vous souvenez-vous, ses grands combats à Wembley pour des titres mondiaux. Il avait un peu remis la boxe au goût du jour. Et ben, il va travailler avec le bad boy du rugby anglais. Vous savez, le troisième ligne de Northampton âgé de 21 ans, Henry Pollock, pour en faire, dit-il, une immense star.
RMC, la punchline GG.
Ces derniers mois, Pollock était partout sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, mais qui est-il? Je l'aime bien. Et quand je suis allé au match Angleterre-Pays de Galles, le seul joueur que je connaissais, c'était lui. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, ce gamin est une superstar. Ce gamin pourrait à lui tout seul changer le rugby.
Henry Pollock peut changer à lui tout seul le rugby, nous dit le promoteur Eddie Hearn, qui parle de la construction d'une superstar. Les GG, je vous pose la question, vous me dites d'abord oui ou non. Le rugby a-t-il besoin de construire une superstar? Christophe Cessieux?
Non, je suis pas convaincu.
Denis Charvet?
Oui.
Marc Madio?
Moi je dis non, et surtout quand on dit le mot construire.
Ah, Sarah Pitkovski?
Moi je suis plutôt sur le oui.
Vous venez évidemment au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. Pierre Thévenet a vu le phénomène Pollock de près hier soir puisqu'il était à Northampton Castres. Salut Pierre!
Salut Georges, salut à toutes et à tous.
Magnifique match d'ailleurs, hein. Ouais. 49-41. Très bon malheureusement match. Victoire des Anglais. Tu as aperçu l'aura d'une superstar pour Pollock sur place, Pierre?
En tout cas, il est à part, ça c'est certain, c'est son visage qui domine les affiches autour du Franklin's Garden. Écoutez les quelques mots choisis par les supporters anglais pour le définir.
Flamboyant, energetic, class.
Brilliant, scores all the time.
Playmaker, hardworking and...
cocky, great and wonder kid.
Énergique, flamboyant, classe, mais aussi arrogant. Un jeune homme me l'a même décrit comme un shithouse, un merdeux, en quelque sorte, devant le stade. Ellis, un jeune supporter, arbore une grande crête blonde, évidemment, en hommage à son idole.
C'est en référence à Pollock, oui. Je l'ai refaite mardi pour ce match, mais ça fait quelques mois que j'ai cette coupe. Il met de la lumière sur le rugby, les gens viennent au match pour le voir, c'est bien pour le sport.
Et sur la pelouse, l'anglais a fait le show à l'entrée des joueurs, par exemple. Quand ses coéquipiers vont tout au bout de la haie d'honneur, lui coupe au milieu, sprint pour être tout seul au milieu du terrain. Là, il crache une grande gorgée d'eau en spray en l'air, bombe le torse devant le public à l'américaine. Rien de surprenant pour Fraser.
We've seen him coming up through the ranks to...
On l'a vu progresser ici à Northampton et devenir la star qu'on savait qu'il pouvait être. Il ne fait rien mal, au contraire. Les enfants se déguisent pour lui ressembler les jours de carnaval à l'école. J'ai vraiment hâte de voir la suite.
Il chambre, il célèbre sur le terrain. Les supporters anglais l'adorent, ses adversaires adorent le détester. L'essentiel est là, il fait parler de lui, comme via ce contrat avec Eddie Hearn. Il s'expose aux coups pendant les matchs et aux critiques. Et pour lui, l'important va être de répondre présent sportivement.
Il doit assumer sur le terrain et continuer à jouer aussi bien que jusqu'à maintenant. Je suis persuadé qu'il est le nouveau grand joueur anglais. Quand tu penses au foot, tu penses à Messi, Ronaldo, tous les meilleurs. Et le rugby manque de communication autour de ces superstars.
Dans sa nouvelle agence, il aura toutes les clés en main pour devenir cette nouvelle superstar. Et Dion promet déjà qu'il gagnera plus d'argent en dehors que sur le terrain d'ici 6 mois.
Merci beaucoup Pierre pour ce reportage, cette plongée à Northampton hier pour essayer de comprendre un peu plus ce qui est Northampton, qui est Henry Pollock. Non mais c'est important parce que tout notre public, nos auditeurs, auditrices ne connaissent pas tous, même si certains l'ont sifflé au Stade France, de France. Oui. Tiens, alors Christophe, toi tu dis le rugby n'a pas forcément besoin d'une superstar ou d'en construire une. Pourquoi?
pourquoi? Non, bah, déjà, tu les superstars du rugby, tu les comptes dans l'histoire du rugby, tu les comptes sur les doigts d'une main. Il y a eu évidemment John Alomou qui marchait sur ses adversaires, qui était All Black, immense joueur. Donc il a vraiment marqué les esprits. Bah,
il y a eu tout un marketing, il y a même un jeu vidéo
autour de lui.
Ça a été la première star.
Ça a été la première star du rugby. Mais derrière, on n'a jamais eu de mec de son niveau en France. On a eu Chabal, mais qui était plus star de par sa barbe que par ses exploits sur le terrain, où il démontait ses adversaires, mais c'était pas un rugbyman extraordinaire, et il a que finalement assez peu de sélection d'équipe de France. On a Antoine Dupont qui lui est une star sur le terrain, mais qui n'est pas une star en dehors, même si aujourd'hui il est avec une Miss. Donc Wilkinson c'est l'anti-héros par excellence, et le mec parfait sur le terrain, c'est Mr Nobody, parce que Mr Nobody is perfect. Le mec qui s'entraînait des heures durant et il était parfait, mais c'est pareil, il a pas le côté star comme Pollock. Ah,
si, c'est une star.
Non, mais il avait pas envie. Explique la différence entre les stars de terrain et les stars.
Wilkinson, pour moi, je suis pas un grand spécialiste du rugby, mais pour moi c'était une star du rugby.
Voilà.
Il entrait sur le terrain.
Voilà, c'est une star du rugby,
en admiration.
Mais c'est une anti-star dans le sens qu'il a jamais voulu se mettre en avant. Wilkinson, quand tu l'as interviewé, il est tout gentil et tout ça. Va interroger Pollock, tu vas voir l'autre, il va te faire des sorties pas possibles.
Mais ça n'empêche pas que ce soit des stars tous les deux. C'est ça qu'on veut dire.
Bah oui. Oui, mais elle a pas été fabriquée, cette star. Elle s'est fabriquée toute seule. Il n'y a pas eu besoin d'un promoteur. Moi, je pense que on a besoin effectivement de personnages importants dans le rugby qui sont des marqueurs. Mais le rugby, c'est le sport collectif par excellence. Et le rugby voudrait, la grenouille voudrait être aussi gros que le bœuf football. Donc avoir des méga stars, des Messi, des Ronaldo, des Mbappé. Et ben non, parce que la star d'une équipe de rugby, c'est l'équipe, justement.
Denis, je suis pas d'accord. Non, mais je suis pas d'accord. En fait, moi, je trouve génial l'approche de Hearn le promoteur qui voit l'opportunité à travers un joueur comme Pollock de faire de l'argent, évidemment, mais d'en faire une star. Mais c'est déjà une star. Il faut le dire. C'est pas une énorme star, je veux dire, médiatiquement parlant.
C'est une graine de star.
Oui, mais c'est déjà une star dans sa façon d'être, dans sa façon de jouer.
Il n'y a pas besoin de construire grand chose. Il faut juste la peaufiner.
C'est pour ça que construire. Moi, j'aime pas aussi le mot construire parce que ce gars-là, il est hors norme. Et d'ailleurs, les joueurs, on a reçu Anthony Bello qui joue avec lui à Northampton, qui en parlait, qui était dithyrambique à son sujet. Il disait, mais en entraînement, c'est un monstre. Il sait tout faire. Il va très vite. Enfin, il plaque comme toute personne. Donc, il nous a fait la description d'une superstar déjà.
Mais est-ce que le rugby a pas besoin justement de cette star qui va un peu
Christophe l'a dit.
Le casser rugby, les frontières.
Il y a pas eu énormément de stars dans le monde du rugby. À l'inverse du foot où il y a eu beaucoup de stars. Nous, il faut les fabriquer. Il faut qu'à un moment donné, on ait des stars. Dupont, c'est une aubaine pour nous d'avoir une.
Il faut savoir les mettre en valeur, en tout cas, en fait. C'est ça.
Oui,
les mettre en valeur, pas les fabriquer.
Mais nous, pour nous, Dupont, c'est génial.
Mais c'est Wilkinson, j'allais en venir.
Aujourd'hui, la vérité, c'est que Pollock, il a rien prouvé. Rien. Dans le sens où il n'a rien gagné. Il faut gagner, il faut jouer.
Il faut être
titulaire en équipe d'Angleterre. Il ne l'est pas. Il a encore une marge de progression, sûrement. Mais il faut qu'il s'impose comme le mec qui est incontournable, qui fait gagner. Parce que attention, souviens-toi, Wilkinson, c'est un mec qui faisait gagner.
Mais en 2003.
Mais le fond du sujet, les amis, c'est pas tellement ce qui va être une star ou pas. Est-ce que le rugby a besoin de quelque chose comme ça? En fait, pour monter un niveau supplémentaire de médiatisation.
Je finis. Peut-être, mais on peut pas fabriquer.
Je finis là-dessus. Tout à l'heure, on a abordé justement les niches comme ça, le fait que les sports, mais il y allait beaucoup sur les réseaux, on s'aperçoit qu'il te faut l'incarner, le sport. Si t'as pas de gens, de stars qui l'incarnent, mais tu restes de.
Mais t'as combien de stars aujourd'hui dans le rugby mondial?
Est-ce que tu saurais donner le nom de trois joueurs sud-africains
qui parlent les doubles? Sarah, laissez parler Sarah.
Tu as raison, Christophe. Si on parle de manière générique sur le sport, oui, on a besoin des têtes de gondole. Et effectivement, le rugby, pardon, moi, depuis Johnny Wilkinson, et je me mets à la place des Anglais, on s'identifie auprès de qui? Parce qu'une star, c'est aussi une identification. Et regarde, puisqu'on vient d'entendre les sons, ils veulent se couper. Ils veulent avoir la même coupe de cheveux que
Pollock. Ils veulent se déguiser comme lui au carnaval.
Évidemment qu'il sort un peu des rangs, mais on a besoin.
Mieux que leur coupe mulet qu'ils ont tous, hein, en ce moment.
Oui, en tout cas, on a besoin. Alors, il y a eu Dan Carter, tu l'as dit, John Alomous, Chabal. La petite chose qui me gêne, c'est qu'on veut qu'il soit star avant qu'il le soit sur le terrain. Mais bon, ça c'est.
Mais en fait, il a le potentiel. C'est ça qu'on voit.
Après, au rugby, pourquoi il n'y a pas de grande star? Parce que le rugby, c'est quand même un sport où c'est un sport de combat où tu dois avoir tellement confiance en tes coéquipiers que d'émerger dans un collectif, je pense que la qualité première, c'est d'être au service de ses coéquipiers.
Et c'est très alors mal vu foot, pour les 14 autres quand il y en a un qui fait sa star là, justement. Hein.
Alors qu'au foot, parce qu'on compare toujours le rugby et le foot, alors que le foot, on est quand même sur des individualités où il faut exister. Mais le rugby, je pense que c'est alors compliqué d'être.
Tu as raison, parce que c'est l'essence même du rugby, c'est le côté collectif.
Mais il y en a besoin, parce que le rugby, pardon, c'est pas joué partout dans le monde.
Le rugby doit faire parler de lui, mais il attendez, parce qu'aujourd'hui, les grands décideurs, ceux qui réfléchissent à faire des ligues fermées, par exemple, on le rappelle, hein, c'est un des sujets qu'il y a aujourd'hui dans le rugby, regardent aussi à quel point la popularité touche là aussi les jeunes. Ouais. Je vais vous donner un exemple très concret. Sur Instagram, vous savez, aujourd'hui, malheureusement, ce sont des compteurs de popularité. Il y a seulement 2 joueurs de rugby aujourd'hui qui ont plus d'un million d'abonnés. S'il y a Colissi, le capitaine des Springboks, évidemment, et Antoine Dupont. Et derrière, tous les autres, Colby 800 000, Boden Barrett 736 000, Etzebeth 667 000, Finn Russell 221 000, et Denis Charvet 5 000. Il manque aujourd'hui peut-être, on a regardé le vélo, dans le vélo, il y a plusieurs coureurs à plus d'un million d'abonnés, également dans le football, n'en parlons même pas, dans le tennis, n'en parlons même pas, mais aujourd'hui, Eddie Hearn, promoteur, il regarde ça.
Mais bien sûr.
Il se dit, en fait, c'est un sport où il y a tout à faire. Parce que pour aller chercher un nouveau public, il faut regarder là. On en parlait tout à l'heure, ça rejoint ce qu'on dit dans le foot.
D'ailleurs, l'Arabie Saoudite se montre intéressée pour organiser une Coupe du Monde. Mais c'est parce qu'il voit un potentiel d'ouverture et médiatique qui fait qu'il s'y intéresse, d'attractivité, absolument.
Marc, toi tu dis, le mot construire me dérange pour un superstar. Mais dans le sport d'aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas quand même un peu obligé de regarder ça? C'est ça que je veux dire.
On regarde, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on...
Mais l'homme va passer un jour.
Il faut laisser les choses se faire normalement et naturellement.
Bah, quand on c'est essaie de laisser faire les choses naturellement.
Ouais, je suis d'accord. Tu veux dire quoi, si tu construis artificiellement?
Ouais, ça passe pas. Les gens ne s'y trompent pas. Ce qui va, en fait, le verdict final, c'est
sa qualité de joueur.
C'est le public. Et c'est la qualité qu'il va véhiculer sur le terrain, qui fera ensuite de ce joueur une star ou pas.
Mais qu'on va essayer d'en faire
une star artificiellement avant qu'il n'ait prouvé sur le terrain par ses performances.
Chris, tu fais une comparaison avec le vélo, par exemple. On a parlé tout à l'heure des fantastiques, les Van Der Poel, les Pogacar, les Van Aert et tout ça. Eux, non seulement ils ont gagné, mais en plus ils ont une vraie personnalité. Un autre coureur du même niveau qui est Vingegaard, lui c'est un immense champion, il a gagné 2 Tours de France, mais c'est pas une star parce qu'il est un peu en dedans, parce qu'il l'arrive pas, parce qu'il est, tu vois, donc il y a pas que le sportif qui explique ça, il y a aussi la personnalité.
Et il faut le sportif,
juste pour finir encore, il sera obligé de gagner.
Oui, bien sûr, mais ça, on est tous d'accord,
de gagner des titres,
mais
faire gagner son équipe,
ça va pas dépendre que de lui non plus, mais équipe.
Débat, réfléchissez aussi chez vous, c'est pas tellement est-ce que Pollock peut devenir une star, c'est est-ce que le rugby a besoin de quelque chose comme ça pour passer à un niveau supérieur. Et on vous remercie d'être revenu sur WhatsApp pour en parler.
Il fait gagner les JO, il fait gagner son équipe du Stade Toulousain, il fait gagner l'équipe de France. Si tu peux pas devenir une star si tu fais pas gagner.
Laurent me dit sur WhatsApp, j'ai regardé le match d'hier, Northampton Castres. Parce qu'il y avait Pollock. Je ne connaissais aucun joueur et j'ai reconnu les Anglais au Castéré grâce à lui.
Parce que lui, t'as envie de lui mettre des bottes. Lui tirer les cheveux.
Attention, t'es un mec un peu violent quand même. Hein.
Oui,
Le j'y crois pas tout de suite, on revient sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport avec Marc Madiot, Denis Charvet, Christophe Cessieux et Sarah Pitkowski dans un instant dans le vestiaire. Finalement, c'est un vestiaire qui va un peu rassembler tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est comment savoir évoluer avec son sport quand on est cycliste, tennisman, tenniswoman ou joueur de rugby. On a vu beaucoup d'évolutions et il faut savoir s'adapter. Mais tout de suite, le j'y crois pas.
RMC, les grandes gueules du sport. J'y crois, j'y crois pas.
Tiens, rapidement, on va commencer par du vélo parce qu'on l'a évoqué. J'y crois pas. En cyclisme, Paul Sexas va gagner le Tour du Pays Basque qui commence lundi. J'y crois pas, Marc.
Oui.
Christophe.
J'y crois.
Denis.
Oui.
Sarah.
Bah oui, j'y crois.
Ce sera du lundi au samedi avec un chrono inaugural de 14 km autour de Bilbao et ensuite, bah, y a pas de plat. En fait, c'est que des étapes accidentées jusqu'à l'arrivée finale. Face à lui, il y aura Del Toro, Ayuso, Roglic, Skelmoseux. Il y a du monde. T'y crois? Pourquoi t'y crois, Marc?
Bah, j'y crois parce qu'il nous a démontré lors de cette dernière sortie qu'il était digne des meilleurs, voire de Pogacar. Donc, potentiellement, il a les atouts pour gagner le Tour du Pays Basque.
C'est une course assez pour lui, en fait.
Oui, ça lui, c'est une course qui bah, devrait bien lui convenir. Après, je demande à voir quand même avec la météo. S'il y a une petite interrogation pour Sexas, moi, ce serait sur les conditions météo. Comment il va les gérer. Hormis cela, je le mets potentiel vainqueur.
On parlait de vélo rock'n'roll tout à l'heure autour du Pays Basque. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une classique tous les jours, hein, pratiquement. Tellement c'est une classique ardennaise.
Dans le milieu, on dit qu'il y a des beaux tas de fumier.
Christophe.
Bah oui, moi je rêve qu'un Français parvienne enfin à mettre fin à cette longue période de disette. Il faut savoir que le dernier vainqueur français d'une course par étape d'une semaine, c'est Christophe Moreau, et c'est en 2007.
Du niveau du catégorie numéro 1, World Tour.
Et je crois, à vérifier, je crois que le premier Français qui a gagné le Tour du Pays Basque, c'est Jacques Anquetil.
Peut-être que ça sera dans les jeux tout à l'heure, donc je te répondrai
et
pas.
Depuis, nos champions, les plus grands, que ce soit Vauclair, Pinot, Bardet, jamais ils n'ont réussi à égaler ce qu'avait fait Moreau. Moi, ça me surprend toujours. Quand je me dis qu'avec cette génération-là, que cette génération-là n'aime pas réussir à remporter une
course à étapes,
une course par étapes,
lui a pas manqué grand-chose sur.
Bah ouais,
mais il s'est un peu battu tout seul ce jour-là, mais bon.
Et après, c'est la problématique des chronos, des contre-la-montre souvent aussi. Où les coureurs français perdent du temps.
On a beaucoup perdu de courses aussi sur les chronos.
Écoutez notre
Sexas là, il est bon en chronos.
Exactement.
Et Moreau était bon dans les chronos.
Exactement.
Il y a un maillot jaune sur.
Vous pouvez écouter notre présentation du Tour de Pays Basque en podcast, évidemment notre podcast vélo Grand Plateau RMC disponible sur toutes les plateformes. J'y crois pas, les amis. La F1 va céder sous la pression des pilotes et changer sa réglementation. Sarah ?
Ah bah, je pense qu'elle va être obligée, oui.
Denis ?
Non.
Marc ?
Oui.
Christophe ?
Elle va changer à la marge.
Pas de Grand Prix, hein. Je vous rappelle, jusqu'au 3 mai à Miami, parce que les Grands Prix d'Arabie Saoudite et à Bahreïn sont annulés en raison de la situation au Moyen-Orient. Mais il y a une réunion au sommet jeudi prochain à Londres entre les écuries, les motoristes et les responsables de la FIA, la Fédération Internationale Automobile, pour parler de l'avenir de la discipline à court terme, pour peut-être notamment améliorer les qualifs et pouvoir rouler à fond, hein, ça fait partie des problématiques, mais aussi pour parler de la saison prochaine. Sarah, toi tu dis j'y crois, tu penses qu'ils vont devoir, et ça fait beaucoup parler, hein, Alonso, Verstappen, oui. Beaucoup critiqué début de saison, et Norris notamment la nouvelle réglementation.
Oui, je pense qu'ils vont, céder pour des questions de sécurité, parce qu'avec l'accident qu'il y a eu sur le dernier Grand Prix, où effectivement entre le moment où tu utilises ton boost, et le moment où tu es obligé de réduire ta vitesse pour recharger ta batterie, il y a eu 50 km de différence, 50 km heure de différence entre les deux voitures.
C'est l'accident de Berman à côté de Colapinto.
Donc je pense que cette histoire de moteur thermique et le fait de devoir recharger, il y a un moment, je pense qu'ils n'ont pas encore trouvé le juste milieu.
Ils ont découvert des choses en course, en fait.
Mais oui, c'est pour ça que je pense qu'ils vont à la marge, comme le dit Christophe. Je pense qu'ils vont devoir réajuster. Alors, je ne m'y connais pas en mécanique, mais sur le moment où tu recharges ta batterie et le moment où tu peux rouler à pleine puissance. Parce que là, c'est un peu incompréhensible. Alors,
on a vu à Suzuka, ils ne pouvaient pas aller à fond sur certains secteurs mythiques parce qu'ils devaient recharger la batterie.
C'était de d'accélérer les dépassements. Mais je pense que là, ils tâtonnent. Et pour moi, il va y avoir un ajustement.
Mais il y a un autre problème.
Cette saison.
Il y a un autre problème pour la F1. La F1, c'est quoi ? C'est la vitesse pure.
Oui.
C'est le pied dedans, le plus vite, le plus longtemps, la pédale au fond de l'accélération.
Sors de ce corps, j'en y crois.
Donc, il est obligatoire pour la F1 d'évoluer. L'essence même de la F1, c'est la vitesse pure.
Parce que là, c'est contre l'ADN.
On va à l'envers de ce qu'est un Grand Prix de Formule 1. À ce moment-là, on va aux 24 heures du Mans où on est dans la gestion et dans la vitesse sur 24 heures. Mais c'est de l'endurance. Oui. Là, on est dans la vitesse pure. Et si on sort du schéma vitesse pure, c'est plus de la F1.
Les gars, Denis, Christophe.
Non, mais moi, le débat, il n'est pas là. Enfin, le débat, c'est moi, je ne vois pas comment ils vont faire marche arrière. C'est surtout ça. Ils vont dire aux pilotes, ils vont demander aux pilotes de s'adapter. et ils changeront rien.
Ils vont faire les ajustements.
Ils sont obligés de faire les ajustements. Ça va prendre du temps.
Effectivement, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Sur la réforme, ça a coûté trop cher.
Bien sûr.
Toutes les écuries travaillent d'arrache-pied pour essayer de mettre en place ces voitures.
Mais ils vont trouver des artifices pour que ça.
Mais ils vont trouver des artifices et on parle notamment de lisser l'énergie, la puissance en modifiant la manière dont l'énergie électrique est déployée pour éviter les coupures brutales.
Autant Jean-Luc, quand il en parle, je sais qu'il sait de quoi il parle, autant Christophe, j'ai plus de doutes.
Là, on a du mal à comprendre.
Plus
non, en fait, il n'y aura plus de coupures dans les lignes droites parce que c'est ça qui.
Oui. Donc, c'est la dépendance à la batterie, en fait. Là, aujourd'hui, c'est.
Les discussions, c'est pour amorcer les changements par rapport à l'année prochaine. Ça se fait aujourd'hui, on le sait, parce que sinon, ce sera trop tard pour que les choses évoluent.
Le rapport moteur thermique et le moteur essence, je pense qu'ils peuvent déjà l'adapter cette saison.
Oui, mais ça on verra effectivement s'ils arrivent.
Quelques semaines, parce que comme
le prochain, c'est le 3 mai à Miami. Ouais.
Non, mais c'est surtout, c'est ce qu'on disait la dernière fois, comment ne pas écouter ces légendes. Quand Verstappen, quand Alonso, qui sont les incarnations de ce sport depuis des années, tirent à balles réelles contre leur propre sport.
Il y a 30 ans, ils n'écoutaient pas Senna ni Prost.
Mais oui.
Comment tu veux que ça change aujourd'hui?
Mais non, jamais. Parce que là, t'as quand même chez les spectateurs.
Il a opté Prost quand même.
Oui, mais enfin, d'accord.
Ah oui.
Oui, un peu.
Mais t'as quand même, de plus en plus de spectateurs et de téléspectateurs et de fans de Formule 1 qui expriment leur mécontentement. Voilà, exactement. Autant après Melbourne, il y avait du on va voir. Après la Chine, il y avait du Et après Suzuka, il y a beaucoup de. C'est pas ouf quand même ce qu'on regarde.
Il y a le patron qui est en colère, Verstappen. Ah.
Et puis Jean-Luc Roy est en colère surtout. Et ça a une vraie influence sur le monde de la Formule 1.
Ça peut tout faire, basculer.
Ça peut tout faire, c'est exactement. voilà, les amis, pour le j'y crois pas. On aurait pu en parler, mais on a pris par le temps. Mais juste, je vais vous dire qu'en Champions Cup, aujourd'hui, il faut suivre RC Toulon Stormers à 16h. Ça, Toulousain-Bristol, 18h30, avec le retour des héros du tournoi Destination. Et UBB Leicester, demain, dimanche, 16h.
Ils vont tous passer. Oui,
même à
Toulon.
On va en parler
même Toulon.
On en parlera dans les paris tout à l'heure, à partir de midi notamment. Allez, on revient dans un instant dans les grandes gueules du sport sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.